Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, alors on va ouvrir notre Bible et on va ouvrir dans le livre des Cantiques des Cantiques. Alors je vais vous expliquer en effet de quoi il s'agit. Nous sommes à l'étude de la dernière partie de ce livre poétique, hein, il faut le dire. Nous avons passé l'année, les mercredis, une fois par mois, nous nous sommes retrouvés pour étudier ce livre, qui est un livre merveilleux, qui est un livre qui nous parle de l'amour. Et pour ceux qui étaient là, eh bien, on avait fait 11, enfin, c'est la 11e aujourd'hui, nous avions fait 10 études. Il était question, la première étude, de l'assurance de l'amour. Ensuite, nous avions abordé qu'est-ce que la bannière de l'amour. On avait aussi discuté de quand l'amour s'éveille. Et puis, un jardin dans le désert, condition de l'Église, d'aujourd'hui et de toujours. Nous avions également abordé cette question, les mots d'amour. Oui, parlez-moi d'amour, par exemple. L'amour en sommeil. Et puis, nous avions poursuivi, maladie d'amour. Le langage de l'amour. Le témoignage de l'amour. Dans l'intimité de l'amour. Et cette dernière étude que nous allons ouvrir aujourd'hui, eh bien, ce sera tout simplement l'amour parfum du ciel. Alors, c'est tout un programme. Et je voudrais faire un rappel pour ceux qui nous rejoignent, ceux qui n'ont peut-être pas participé à cette étude, que vous retrouverez en DVD, hein, de toute façon. Mais je voudrais faire ce rappel du contexte pour mieux saisir la pensée, parce que d'abord c'est une pensée qui sort de l'Antiquité, il faut dire, c'est une pensée poétique et à l'oriental naturellement, et il y a toujours une transposition entre quatre personnages. Le roi Salomon, qui est appelé dans la Bible le bien-aimé, qui est le type de l'amour et du bonheur humain, qui est aussi nommé, décrit comme l'époux, le fiancé, qui est épris et amoureux follement d'une jeune fille. Voilà, ce qui est tout à fait normal, tout à fait naturel. D'une belle jeune fille qui s'appelle Sulamite. C'est son nom. C'est une jeune fille qui est pauvre. Et elle est aimée par un roi. Et il y a une relation passionnelle, mais qui est dans cette étude toujours contrariée. Dans ce livre des Cantiques des Cantiques, il y a toujours une contrariété quelque part. Comme quoi l'amour est difficile. Hein. C'est pas simple d'aimer. Hein. Et ce récit poétique illumine et projette une réalité spirituelle et prophétique. C'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'époux divin, qui est un peu le corollaire du roi Salomon, mais de manière, en effet, tellement plus grande, tellement au-delà de toutes les contingences naturelles et humaines, parce que Jésus est Dieu. Il faut quand même le préciser au passage. Et qui sauve par amour et qui va donner sa vie pour celle qu'il aime. Et celle qu'il aime, c'est l'Église. Eh oui, c'est tous les textes que nous avons dans le Nouveau Testament. Donc, c'est une allégorie sentimentale, romantique, poétique de l'amour agapé, c'est-à-dire un amour total et céleste, dont les hommes que nous sommes, les hommes et les femmes que nous sommes, nous avons besoin de nous inspirer. Et c'est tout cela que raconte le livre des Cantiques des Cantiques. Alors, pour reprendre et terminer, j'espère pouvoir terminer, en tous les cas aujourd'hui, mais toujours est-il qu'on va prendre le chapitre 8, si vous voulez, et on va lire à partir du verset 6. Alors, on va donc, Cantique des Cantiques, c'est en plein milieu de votre Bible. Tout dépend du format. Et au verset 6, je lis ceci, ou je reviens à ceci, c'est Salomon, le roi, qui dit à sa fiancée, tout simplement, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. » La jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les femmes ne le submergeraient pas, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que du mépris. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis un mur, et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avait une ville à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 sicles d'argent. Ma vigne, qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 10 000 sicles et 200 pour ceux qui gardent le fruit. Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle et ou au fond des biches, sur les montagnes des aromates. Alors, la compréhension immédiate est difficile. C'est vrai, mais bon, on est quand même là pour expliquer un petit peu les choses. Je reprends. Car l'amour est fort comme la mort. C'est l'expression de la fidélité du bienheureux, dixit, je le rappelle, Salomon, le bien-aimé. Mais pour nous, la transposition est faite immédiatement dans la compréhension, c'est Christ. La fidélité du bien-aimé a été éprouvée jusqu'à donner sa vie. Aimer à en mourir, c'est tout le cœur même du message évangélique. Jésus est mort, il a aimé en mourir. Et mourir pour qui? Mourir pour l'Église, mourir pour les enfants de Dieu, mourir pour chacun d'entre nous. L'amour est fort comme la mort, fort. C'est cette force qui est manifestée, cette expression de triomphe. Mourir pour quelqu'un qu'on aime nous assure le prix, afin que Christ nous garde à lui. C'est parce qu'il nous dira également dans l'évangile de Jean, « Nul ne les ravira de ma main, nous sommes à lui et lui est à nous. » Dans cette réciprocité, certitude absolue de la valeur de notre vie que nous pouvons avoir à ses yeux. Nous avons du prix à ses yeux. Si quelquefois nous nous méprisons, si quelquefois nous nous dénigrons, si quelquefois nous nous désapprécions, eh bien sachez que nous péchons contre le Seigneur parce que lui nous regarde avec des yeux de son amour. Il faut faire attention, surestimation ou sous-estimation, nous appartenons au Seigneur. Depuis la chute, la mort a régné sur le monde, nous dit l'Écriture, jusqu'au jour où l'amour pur, saint, l'abnégation parfaite, qui n'a rien à voir avec nos conceptions de pureté ou de sainteté, est entré en lutte avec la mort. Ça s'est passé il y a 2000 ans sur un mont à Jérusalem qui s'appelle Golgotha. Et nous voyons que cet amour a terrassé la mort pour toujours. Ce sont les certitudes qui sont dans notre cœur aujourd'hui. L'amour de Christ a triomphé à la croix parce qu'il a consenti à mourir pour chacun d'entre nous à travers le temps et l'espace, pour les hommes d'hier, pour les hommes d'aujourd'hui et les hommes de demain, jusqu'au jour où il va revenir. Et l'important sur la mort, c'est de lui avoir arraché son pouvoir de faire mourir. Et écoutez, nous avons ce texte que nous prenons très souvent pour des occasions où nous accompagnons des frères qui montent vers la cité céleste. Il est dit ceci, parce que je crois que, rappelons-le, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Ô mort, où est ton aiguillon? Pour nous, ça n'existe plus. L'aiguillon a été enlevé parce que Jésus est mort à notre place. N'ayons pas peur de la mort. Nous pouvons toujours avoir, naturellement, une appréhension. Elle est légitime, nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes pas des anges. Mais une chose qui est certaine, c'est que pour nous, l'aiguillon a été enlevé. Nous vivons d'espérance. Ouais, nous vivons dans cette espérance qu'il y a quelque chose qui sera infiniment meilleur que tout ce que nous pouvons connaître sur la terre. Sa victoire a résulté en explosion de vie que nous nommons la résurrection, tout simplement. Un peu plus loin, il nous est dit que la jalousie est inflexible comme tout ce qui vient s'interposer entre l'épouse et son bien-aimé, entre Salomon et Sunamite, entre Christ et l'Église, lui est intolérable. L'intensité de l'affection qui les unit l'un à l'autre est telle que la moindre influence corruptrice, une rivalité, un détachement tout simplement, même passager, devient une odieuse souffrance pour Dieu. Et cela s'explique par le prix payé. Le prix est incommensurable. Y a-t-il un mot qui peut exprimer ce que Jésus a accompli? Mourir d'aimer. Mourir parce que l'amour est au-delà de tout ce que nous pouvons raisonner. Le Seigneur doit avoir la première place et passer avant tout. C'est pourquoi le verset 7, dans la deuxième partie, il nous est dit simplement « La jalousie donc est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel, et les grandes eaux ne pourraient éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. » Éteindre l'amour et le submerger. En d'autres termes, on pourrait expliquer les choses inextinguible, qui ne s'éteint pas, et insubmersible. On peut le dire de cette manière, si vous voulez bien. L'amour de Dieu est supérieur à tout, et rien ni personne ne pourra l'anéantir, parce que c'est Dieu qui le dit, et c'est Dieu qui l'a prouvé en le disant, et il a prouvé ce qu'il a dit, tout simplement. Et ça, ça doit être au fond de notre cœur. Parce que cet amour-là, il est permanent, son amour est permanent pour ceux qu'il déclare les siens, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui sont convertis à Jésus-Christ, et cela a toujours, et toujours la même intensité à travers les temps qui passent, et alors, au moment de nos luttes que nous pouvons avoir, dans nos heures de doute, nous avons besoin de ranimer le feu dans nos cœurs à ces paroles qui sont des braises. J'emploie des mots ce matin qui correspondent aussi avec le caractère poétique. Qu'est-ce que ce sont ces braises dont nous parle Paul et qui exprime l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous? Eh bien, on va le voir tout de suite. Dans Romains, par exemple, je lis seulement le texte sans faire de commentaires, parce qu'il est amplement suffisant. Au chapitre 8 et au verset 31, il est dit cette parole, tout simplement. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Il est question de l'amour. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, et il l'a livré pour nous tous. Alors, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Tout simplement avec Dieu. Mais si nous sommes accusés, mais c'est Dieu qui va nous justifier. Et c'est lui qui va nous défendre. Et Paul poursuit, il dit ceci. Mais parce qu'il est ressuscité, rien ne pourra nous séparer. Ne pourra couper cette relation. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Car à cause de toi, c'est tous les jours qu'on nous met finalement, eh bien, qu'on nous mène à la boucherie. Ça, c'est le problème, le grand problème de l'Église persécutée, moquée, honnie dans ce monde. Mais Paul dira, il va surenchérir sa pensée, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il ajoute, mais j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, il y a de quoi louer et adorer le Seigneur à travers ça, non? Je pourrais m'arrêter là. Mais on va quand même aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a tellement de merveilles dans ce livre des Cantiques cantiques. Enflammer notre foi et se savoir aimé de Dieu, parce que je me sens aimé de Dieu, malgré mes faiblesses, malgré tout ce qu'il peut y avoir de précarité dans ma vie, eh bien, Dieu continue à m'aimer. Ça s'appelle la grâce. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que du mépris. Dans le monde, l'amour s'achète. Illusion. Il se monnaie l'amour, voilà. Il se vend, c'est du mercantilisme. C'est terrible. Le monde qui chante l'amour, qui écrit l'amour, ne connaît pas ce que c'est que l'amour, naturellement. Qu'est-ce qu'un homme pourrait offrir pour dire, eh bien, aime-moi, ou une femme? C'est une perle lumineuse que nous avons encore ici devant nous. Ici, il est mis en évidence l'essentiel, la raison, le cœur même d'un tel et si grand amour. C'est le don de Dieu. Jésus dira à la Samaritaine, Si tu connaissais le don de Dieu, eh bien, moi, je crois que nous ne pouvons pas nous payer le luxe, et quel triste luxe, de dire, eh bien, voilà, je ne connais pas ce don, ou ce don ne m'intéresse pas. Ce serait véritablement une insulte à Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, connaître le bien-aimé profondément, c'est irrésistiblement aimer en retour, parce qu'il m'aime, moi, je l'aime en retour. L'amour entraîne l'amour, la haine entraîne la haine. Mais je suis pas venu parler de la haine, je suis venu parler de l'amour. Parce qu'il s'est personnellement donné, parce que Jésus a délaissé royaume, trône, souveraineté, couronne, gloire et splendeur céleste, et qu'il a sacrifié sa vie, et qu'il a mis ça au plus haut degré d'abnégation et au plus bas de l'humiliation. C'est comme cela que nous sommes aimés. Et nous ne sommes pas aimés, nous n'avons pas été aimés le jour où nous avons répondu au Seigneur ou que nous nous sommes engagés dans les eaux du baptême, mais nous sommes aimés au moment où je suis en train de vous le rappeler. Et jusqu'à la fin, le Seigneur nous aimera de cette abnégation, humiliation, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il m'a aimé en premier et il s'est donné pour gagner, pour attirer l'amour à soi, tous les biens et tous les cadeaux du monde, finalement, eh bien, ne sont rien, n'ont aucune valeur, et encore moins l'argent et la fortune, car, le texte nous dit, ils ne s'attireraient que du mépris. C'est le moment des cadeaux, vous allez recevoir certainement les uns et les autres des cadeaux, vous n'allez quand même pas sortir votre porte-monnaie et votre portefeuille pour dire combien je vous dois à celui qui vous offre un cadeau. Ce serait méprisant, hein. Parce que derrière un cadeau, il y a l'amour aussi, quelque part, hein. À moins que ce soit un cadeau empoisonné. Mais il faut l'ouvrir d'abord pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais toujours est-il, c'est ça. L'amour ne s'achète pas. Et il ne s'achète pas par des bonnes œuvres. Il ne s'achète pas par des mérites. Il ne s'achète pas par tout ce fonctionnement religieux. C'est tout simplement de l'accepter. C'est un don. Il s'offre. L'amour agapé fait naître l'amour. Et nous l'aimons parce que c'est lui qui est venu vers nous pour nous dire qu'il nous aimait. Et en retour, moi j'aime Jésus parce que je sais qu'il m'aime. Tout simplement. C'est la réponse du berger à la bergère, en quelque sorte, hein, tout cela. Hein, et vice versa. L'épilogue du Cantique des Cantiques prend une tournure inattendue. Le verset 8 nous le dit parce que c'est assez particulier. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous à notre petite sœur le jour où on la recherchera ? Alors c'est intéressant de prendre en considération le commentaire. Le verset 8 introduit « Nous avons une petite sœur ». Qui est-elle cette petite sœur ? Il semble que Tsunamite se rappelle à ce moment les paroles de ses frères plus âgés qu'elle, lorsqu'autrefois ceux-ci l'estimaient trop jeune et ne pas être assez mûr pour la marier. Alors, je ne sais pas, on a dépassé un peu ce stade de ces coutumes orientales, mais toujours est-il, le père, et puis les frères aînés, mariaient leur petite sœur. Aujourd'hui, c'est passé de mode, hein, naturellement. Mais bon, on reste dans le contexte de l'Antiquité, oui. Ces frères diront, eh bien, nous avons une petite sœur. Mais viendra le temps, oui, mais viendrait le temps où un fiancé, un époux en devenir la rechercherait. Un homme la regarderait, lui plairait, et puis à ce moment-là, eh bien, naîtrait la flamme, finalement, de l'amour et de l'union. Que ferons-nous le jour où on la recherchera? Disent les frères de Tsunamite. Tsunamite semblable à l'épouse, c'est-à-dire à l'Église. Parce que nous mettons toujours la transposition immédiate, hein. Elle est automatique, cette transposition. L'Église que nous sommes ressemble à certains égards à une jeune fille, une adolescente peut-être pourrions-nous dire, pour rester dans le contexte de ce caractère juvénile. Cette église ressemble donc à l'église en quelque sorte, non encore en âge de se marier, d'où l'insistance de ce rappel fréquent qui vaut pour sa protection que nous avons maintes et maintes fois dans le Cantique des Cantiques. Ne réveillez pas l'amour, ne réveillez pas l'amour, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Vous comprenez un peu la signification de tout ce contexte? Oui. Dans l'Église, nombre de croyants sont dans une condition spirituelle juvénile, je dois le dire. Dans l'Église, en général, hein, je ne parle pas de... c'est-à-dire dans une condition spirituelle immature, où il y a encore la beauté, la fraîcheur probablement de la conversion, de la nouvelle naissance. Vous vous souvenez quand il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et peut-être pour les plus anciens, lorsque nous avons découvert le Seigneur, quelle explosion de bonheur et de joie d'avoir rencontré Jésus. Hein. C'est tout frais, c'est tout beau, c'est le printemps. Et c'est un peu là, le caractère de certains dans l'Église. Encore avec une immaturité dont les affections, l'attachement à Jésus-Christ est tout feu, tout flamme, mais peut-être manquent-ils de racines. Leur fidélité de ces chrétiens, la consécration à la personne de Christ, ne sont pas pleinement réveillés encore. Éveillés ou développés. Période infantile, puérile, je dirais peut-être même charnelle. Ça existe. Mais il appartient à ceux qui sont responsables de l'Église de faire grandir finalement ceux qui viennent de découvrir le Seigneur pour qu'ils passent de l'état de commençant ou de bébé dans la foi pour devenir des enfants, pour devenir après des adolescents, pour devenir des adultes et devenir des hommes faits en Jésus-Christ. On est tous finalement passés par là où on va y passer. Alors la question est urgente. Que ferons-nous de notre petite sœur le jour où un homme la regardera? Qui deviendra son fiancé? Qui deviendra son mari? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle n'est pas prête? C'est l'image, je le rappelle, du corps de Christ que nous sommes. Il y a deux éventualités qui sont envisagées. Le verset 9. Si elle est un mur, notre petite sœur, eh bien nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Alors imaginez-vous un peu ce que ça peut représenter tout ça, naturellement. Si elle est un mur... Les chrétiens à l'image de la petite sœur, dont ses frères veulent à tout prix la garder séparée du monde, c'est-à-dire vierge du mal, on peut l'exprimer de cette manière, s'exprime ainsi. Si elle est un mur, le mur peut représenter les vertus de la chasteté. Alors aujourd'hui, ça fait peut-être sourire, mais il faut quand même le dire, et je préfère, et je veux le dire encore aujourd'hui. Parce que les principes que Dieu a donnés, c'est pour notre bonheur, c'est pas pour autre chose. Pour que nous puissions être heureux, épanouis, et que nous connaissions toutes les graduations dans la dimension et le développement de l'amour. Quand on commence par la fin, on peut peut-être avoir des risques, finalement, que cette fin soit prématurée. On le voit malheureusement dans notre monde aujourd'hui. Mais, ceci dit, je ferme la parenthèse, c'est cette vertu de la chasteté, et pour la garder ainsi, dans cet état de pureté, les frères disent « nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent » qui évoquent la pureté virginale, mise à part pour un seul et unique époux. Que nous en sommes loin. Mais toujours est-il que c'est quand même ce que Dieu a créé et dit pour le bonheur des hommes. C'est-à-dire l'exclusivité d'un seul. Et l'Église a un seul époux, un seul fiancé, c'est Jésus-Christ. Tsunamite est exhortée comme étant la petite sœur pour avoir un seul fiancé et en devenir un seul époux et qu'elle se garde dans ses conditions de pureté pour aller et pour glorifier Dieu. Unique époux, si elle est une porte, poursuit. La porte en question imagine le contraire. Le mur ferme, clos, barricade. Et la porte ouvre. C'est très simple à comprendre. Si la volupté et la frivolité supposée de Tsunamite, et je dis bien supposée parce que c'est pas son cas, c'est ses frères qui pensent qu'il faut la protéger. Mais ce n'est pas son cas. Alors si cette frivolité supposée de Tsunamite, dans son immaturité, si cette jeune fille courait après tous les prétendants de France et de Navarre, si elle courait après tous les soupirants, alors ses frères prendraient des mesures appropriées pour défendre la faiblesse et l'innocence de leur petite sœur. Ainsi, nous la fermerons avec des planches de cèdre. Alors, excusez un petit peu l'expression parce que c'est un petit peu quand même... Mais il y a un sens. C'est un poème à l'oriental, hein, naturellement. Hein. Aussitôt, Tsunamite réagit en entendant ses frères lui parler de la sorte. Il est question dans le verset 10, et nous allons voir, « Si je suis un mur, dit-elle, et mes seins sont comme des tours, j'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. » Alors, tout ceci, affirmant haut et fort qu'elle a su résister et repousser tous les prétendants qui la harcelaient pour abuser d'elle, prématurément, pour vaincre ses résistances, naturellement. Tout comme l'Église de Christ doit rester fidèle à aimer, à servir et attendre son époux dans la sainteté, dans cette œuvre de l'Esprit qui est la régénération continuelle et permanente. Mes saints sont comme des tours, j'espère que ça vous choque pas, mais c'est la Bible qui le dit, hein. Et à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Tsunamite est désormais ferme, elle est établie, elle est comme une tour, et une tour c'est un refuge, et c'est un point d'observation. Tsunamite n'est pas folle. Elle n'a pas perdu la raison, non. Son bien-aimé la reconnaît, et il va le reconnaître comme une personnalité solide, une personnalité formée, tant physiquement que sur le plan surtout, d'une maturité morale et spirituelle, donc formée. Et elle est rayonnante de paix, parce que la paix a un sens tout à fait particulier. Beaucoup de gens se troublent en faisant n'importe quoi aujourd'hui, d'accord ? Mais si nous voulons garder notre paix en Jésus-Christ, eh bien, il faut aussi que Dieu nous aide et nous donne la sagesse et l'intelligence. Si nous en manquons, il nous la propose. Si quelqu'un manque de sagesse et d'intelligence, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, elle lui sera donnée simplement et sans reproche. Mais il faut avoir la pensée de la demander. Nous avons besoin de la demander tous les jours, parce que les tentations, parce que les pressions sont là dans notre vie. Alors, cette paix, rayonnante de paix, Tsunamite. La paix est le signe de l'équilibre et de la maîtrise. Plus d'émotions intempestives qui me donnent toutes sortes là de choses qui... d'impatience juvénile, oui. Parce que c'est la paix confiante, sereine, de l'amour et dans l'amour. L'amour, ça se conserve et il faut mettre les moyens, il faut s'en donner les moyens pour garder l'amour. Autrement, c'est quelque chose qui peut se volatiliser à un moment donné. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe dira ceci, à celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Ésaïe chapitre 26, si ma mémoire est bonne, tu lui assures la paix. Pourquoi il est parlé de paix, naturellement? Les versets 11 et 12 qui vont terminer expriment les fruits, c'est-à-dire les bénéfices, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, du choix d'être à un seul et entièrement et pour toujours. Tsunamite se compare à une vigne féconde, dont elle veut donner le meilleur de la récolte à son bien-aimé. C'est pourquoi il est question justement de cette phrase dans notre Bible, pour son bien-aimé et pour lui seul. Alors on va le lire tout simplement. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 sicles d'argent. Ma vigne, qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 sicles, et 200 à ceux qui gardent le fruit. Vous vous souviendrez que dans l'Évangile, il est question d'un nard de grand prix, d'un parfum. Oui, le nard de grand prix répandu par Marie sur les pieds de Jésus. Vous en souvenez ça? Ce parfum, ensuite, parce qu'il est répandu là, sur les pieds de Jésus, va se disséminer. Il va se répandre dans toute la maison où se trouvaient Jésus, ses disciples, où se trouvaient les deux sœurs. Et tous ses occupants en ont profité. C'est la bénédiction de Dieu qui profite à tout le monde. Salomon a une vigne, mais cette bénédiction va rapporter naturellement, eh bien, 10 000 ou 1 000 talents d'argent. Voilà, on pourra toujours le vérifier. Et puis après, il y a une part pour ceux qui gardent la vigne. Et ce qui nous montre que l'amour, eh bien, il se partage. Et à partir du moment où l'amour est là, l'amour de l'Esprit, qui vient de Jésus et que nous remettons à Jésus, eh bien, il va bénéficier à nos frères et nos sœurs autour de nous. C'est comme le parfum répandu, vous comprenez? Oui. Pour dire que là où l'amour règne, il fait du bien à tous. Quand dans une église, dans une famille ou dans un peuple, il n'y a plus l'amour, il y a la haine, eh bien, c'est quelque chose de catastrophique et tout le monde va en souffrir. Tout le monde va en pâtir. Et d'autres, et certainement, vont en mourir. Mais quand il y a de l'amour, c'est formidable. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le parfum du ciel. C'est le sens de la vraie, de la vigne de Salomon, appelée Baal-Hamon. Et Baal-Hamon, ça veut dire seigneur d'une multitude. pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour le monde entier. Le salut, la rédemption est universelle. L'amour, bénédiction multipliée et partagée. J'en arrive au verset 13. « Habitants des jardins, mes amis, prête l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. » Et là, nous allons arriver dans ce que nous pouvons dire la dimension eschatologique de la vocation de Christ avec l'Église et du retour de Jésus-Christ. C'est intéressant, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai pas le temps ce matin pour tout dire, parce que quand on veut approfondir, on pourrait passer tout simplement, eh bien, là, 10 leçons sur ces simples versets. Habitants des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre, dit Salomon. Voici la dernière intervention du bien-aimé, de Christ, si vous voulez, pour dire à Tsunamite ces mots esquis, daigne me faire entendre ta voix. Vous savez, quand je suis intervenu tout à l'heure avant de prêcher, j'avais pas prévu ce que j'allais dire. Bon, dans le message, il est préparé. Mais daigne me faire entendre ta voix. Je le dis et je le pense au moment où je suis en train de vous le dire. Il y a une chose que le Seigneur veut attendre, c'est votre voix dans la louange et dans l'adoration, mes frères et sœurs. Franchement, je vous dis sincèrement, j'avais pas prévu tout ça. Mais ça corrobore. Et ça correspond finalement, eh bien, à une exhortation de l'Église pour qu'elle puisse véritablement s'exprimer. Dieu nous a donné cette faculté de la parole. Servons-nous-en. Daigne me faire entendre ta voix. Tu m'offres 1000 cycles, qui représentent déjà une fortune. Mais c'est la preuve de ton amour. Mais le plus précieux de tous les dons, c'est écouter ta voix dans les actions de la louange, la voix de l'adoration, la voix de ton adoration qui est pour moi ton Seigneur et ton Sauveur, le roi des rois et le bien-aimé, ton bien-aimé, le parfum d'amour par excellence. Mais le Seigneur attend cela. Il écoute nos prières et il nous exauce. Mais il veut entendre finalement que nous lui disions « Je t'aime Seigneur ». Donne-moi de t'aimer encore davantage. Donne-moi de détourner mon cœur, mes sentiments et mes yeux, mes oreilles de tout ce brouhaha, de tout ce tohu-bohu autour de moi et qu'est le monde. Mais Seigneur, quand je viens ici, au moins Seigneur, donne-moi de pouvoir t'adorer. On est ensemble, on ne se juge pas, on n'est pas là pour scruter le vocabulaire de l'un et de l'autre pour savoir s'il parle bien. C'est le cœur qui parle à ce moment-là. Et j'en arrive à la conclusion. Il est dit ceci, « Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fond des biches sur la montagne des aromates. » Je le rappelle, « Fuis, mon bien-aimé, ressemble à la gazelle et ressemble au petit de la biche. » Et maintenant, monte sur la montagne des aromates. Si nous avions dû composer, ce qui n'est pas le cas, ni vous ni moi, le cantique des cantiques, imaginez un instant. Si nous avions dû composer, si Dieu nous avait demandé « compose un cantique d'amour », eh bien, je pense que comment l'aurions-nous achevé ? Moi, je vais vous dire que les uns et les autres, à pratiquement 99%, nous l'aurions achevé de la manière suivante, sur une note idyllique, parce que c'est une belle page de la Bible. Nous lui aurions donné le meilleur des atouts, naturellement, c'est-à-dire nous aurions imaginé deux amoureux dans une étreinte éperdue, se perdant dans l'amour. Comme dans tous les romans, comme dans beaucoup de choses de toute la littérature, finalement romantique. Mais vous avez remarqué, et vous allez le découvrir avec moi, mais le Saint-Esprit agit autrement. Parce que le cantique des cantiques ne se termine pas dans une idylle, il se termine dans une séparation. Fuis ! Il se termine par une image de séparation. Fuis. L'amour royal est parti. Ou plutôt, l'époux royal est parti. Vous voulez avoir la preuve ? Le bien-aimé qu'on appelle Jésus est parti. D'accord ? On le sait, il est là par son esprit, naturellement. Mais il est parti. Il est parti il y a 2000 ans. Et Tsunamite est resté. Jésus est monté, remonté au ciel et nous sommes restés sur la terre. C'est là, justement, tout le sens. Toutefois, ceux qui s'aiment brûlent du désir de se retrouver, de se revoir au plus vite. Parce que quand on aime quelqu'un, à ce moment-là, quand on est séparé, on en souffre. Dans le cas normal, dans la situation la plus normale qui soit. Mais autrement, ça coule de source, là, tout ça, de se revoir au public. L'éloignement fait grandir. Tout véritable amour. Messieurs, vous vous souvenez des lettres... Aujourd'hui, les jeunes, ils font autre chose, c'est le pianote. Hein. Mais des lettres enflammées à votre fiancé. Parce que nous, à l'époque, c'était, nous, on remonte à la préhistoire. Hein. C'était, on a connu les dinosaures et tout ça. Alors bon, voilà. L'écriture était à peine inventée, mais on en a profité quand même. Hein. Oui, oui. Enfin, c'est un petit clin d'œil que je fais. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est vrai, l'amour fait grandir, il entretient. Et vous savez, si vous voulez développer une relation avec quelqu'un, il n'y a rien de plus beau qu'une lettre, qu'un du courrier, une correspondance. Autant qu'on puisse s'en souvenir, il y avait un homme qu'on attendait tous les jours, c'était le facteur. Il était béni. Et quand on n'avait rien du tout, enfin je vous raconterai pour ma vie. Mon épouse, je vous dis un petit mot quand même. Elle était en Angleterre, mon épouse, à ce moment-là. Enfin, mon épouse, ma fiancée. Et il y avait une grève en France. Parce qu'à l'époque, la Poste faisait souvent des grèves, vous comprenez? Maintenant, c'est terminé. Oh là là là, c'était terrible. Alors après, quel bonheur! On recevait un paquet de lettres comme ça, c'était très intéressant. On y passait la nuit et la journée. L'Église attend, emplie du désir du retour de Christ. Et vous savez qui nous a écrit une lettre, le Seigneur? Une lettre éternelle. C'est pas une lettre. C'est pas une épître, c'est un livre entier, vous rendez compte. Eh bien, retournez à lire tout cela, vous allez voir, c'est formidable. Ça fait le bonheur de notre cœur. L'esprit et l'épouse disent, et là c'est la fin de la Bible, hein, viens, que celui qui entend dise, viens. Oui, la réponse est donnée, oui, je viens bientôt. Viens, Seigneur Jésus, fais-moi entendre ta voix. Sur la montagne des aromates. À l'ascension, après la résurrection, après la crucifixion, l'ascension, Jésus s'est élevé sur la montagne céleste. Il y avait la montagne de la souffrance, Golgotha, il y avait la montagne de l'ascension, montagne des aromates, en Galilée peut-être. Mais il y a une montagne des aromates où les parfums sont éternels, le parfum du ciel. Montagne céleste, d'où il reviendra bientôt, vous le savez ça? Je m'en vais, mais je reviens. Je vous ai préparé une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi, naturellement. Et dans cette entente, il nous a laissé la plus parfumée, la plus suave des senteurs du ciel, l'aromate de sa gloire divine. C'est le parfum de son amour. C'est le parfum de son amour. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Et si vous voulez retrouver tous ces commentaires, bien, vous pourrez voir ça d'ici le mois de janvier, parce que ça va être préparé. Mais merci Seigneur. Parce que c'est pas facile, finalement, c'est vrai, d'expliquer un tel livre, parce qu'il a un caractère tellement particulier. Hein. Alors, soyez des poètes et soyez romantiques. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Alors, nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Parce qu'elle nous parle et nous voulons véritablement par-delà l'histoire de ce livre merveilleux qu'est ce cantique. Eh bien, nous voulons véritablement y voir ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce livre a été écrit pour nous. Il a été écrit pour notre temps. Il a été écrit pour l'Église, à travers toute son histoire, à travers tous les siècles, pour nous montrer combien celui qui revient bientôt a préparé une place pour chacun d'entre nous, pour que l'Église soit une reine, pour qu'elle soit une princesse, pour qu'elle soit, Seigneur, eh bien là, véritablement dans une position de tout simplement, Seigneur, de gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu nous dis, mais fais-moi entendre ta voix. Eh bien, Seigneur, nous voulons te faire entendre notre voix maintenant, les uns et les autres, à travers ce repas de Sainte-Cène, parce que c'est l'amour qui a payé le prix. Jésus a aimé à en mourir. Hein. Ce repas de Sainte-Cène, c'est l'amour de Jésus, parce qu'il est mort pour chacun d'entre nous. Alors, est-ce que nous pouvons nous taire? Est-ce que nous pouvons garder ces choses dans notre cœur, mais te dire tous ensemble, à travers tantôt un cantique, à travers Seigneur, une expression personnelle, Seigneur, dans le nom de Jésus, comme nous le chantons. Seigneur, viens m'apprendre à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Parce que l'amour est du ciel, et nous sommes sur la terre, et nous voulons répandre cet amour sur la terre, à travers, Père éternel, l'enseignement de ton esprit, sur ton amour. Merci Jésus. Amen. Amen.
pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.